Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous terminons notre série. Je pense que c'est le numéro 17. Si je me trompe, je m'en excuse. Et donc, nous terminons cette série. Il est peut-être pas possible que je puisse parler cette étude entièrement sur ce CD. Au pire des cas, vous m'excuserez, je fais quand même mon possible et on verra. Donc, c'est la série L'importance de la prière. La chambre haute du livre des Actes correspond à Béthanie, c'est-à-dire la maison des figues. Et Béthanie correspond à la chambre haute. Nous allons donc nous arrêter sur cette pensée et chercher avec le secours du Seigneur tout ce qu'elle contient de valeur et de lumière spirituelle. Car ce qui est proposé à notre méditation, c'est le désir du Seigneur d'avoir à la fin ce qu'il y avait eu au commencement, c'est-à-dire d'avoir au sein de son peuple spirituellement ce qu'il avait lui-même constitué au commencement par sa présence. Si l'on me demandait d'exprimer en une phrase ce que je sens être le but recherché par le Seigneur, je dirais symboliquement parlant que ce sont des Béthanies, car Béthanie, pour moi, correspond à la pensée du Seigneur de la façon la plus complète. Son désir est que toute chose s'organise sur la base de Béthanie, soit constituée sur le modèle de Béthanie, et de voir son Église universelle représentée localement par autant de Béthanie. Nous vous demanderons donc maintenant de chercher la pensée de Béthanie dans 7 passages différents. Il va y avoir, si on arrive, 7 passages. Premièrement, le Seigneur est reconnu et reçu. Nous lisons dans Saint Luc chapitre 10, verset 38, « Comme ils étaient en chemin, il, Jésus, entra dans un village. » N'oublions pas ici que les villages représentent aussi des assemblées locales. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Nous voyons maintenant à qui appartenait la maison. Nous savons qui en était la maîtresse. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Or, Marthe était absorbée par divers soins, et elle est venue et a dit à Jésus, etc. Or, cette première mention de Béthanie contient un ou deux aspects qui représente en principe cette église, cette assemblée, cette maison que le Seigneur désire si ardemment. Nous sommes immédiatement frappés par un mot, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Ce mot reçu, est la clé de toute cette histoire, et il marque d'emblée une différence importante avec ce que la Sainte Parole de Dieu nous apprend par ailleurs. Nous nous souvenons que lorsque le Seigneur a quitté la gloire pour descendre sur notre terre, il est dit de lui, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu, ne l'ont point reçu. Saint Jean chapitre 1 verset 11. Nous nous souvenons qu'il a dit de lui-même, les renards ont des terrières et les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Donc, ne l'ont point reçu. Saint Matthieu, chapitre 8, verset 20. Et si nous nous rappelons qui est celui dont parle le premier passage et qui est celui qui a prononcé les paroles du second, si les yeux de notre cœur peuvent s'ouvrir à la réelle signification et à la portée des choses, eh bien, nous en resterons stupéfaits. Oui, lui le Créateur de tout ce qui existe, celui qui possède toutes choses, le Seigneur du ciel et de la terre, celui qui est sur toutes choses et qui a sur toutes choses le droit de propriété devant lequel aucun être vivant dans l'univers tout entier ne peut faire valoir la moindre prétention, le Seigneur par qui et pour qui toutes choses ont été faites. Il est venu, lui, et dans le monde qu'il avait créé, dans ce domaine où il avait tous les droits souverains, il n'a pas eu un lieu où il puisse reposer sa tête. Il n'a pas été reçu. Il n'a pas été reçu. Et pour dépeindre réellement l'attitude de ceux de sa propre nation à son égard, ils disent « C'est l'héritier. Allons, tuons-le et nous aurons son héritage. » Puis, l'ayant saisi, ils le jetèrent dehors. Saint Matthieu, chapitre 21, versets 38 et 39. Mais nous lisons maintenant dans notre passage, et une femme, lisons-nous, nommée Marthe, le reçut. Elle le reçut. Mon Église, oui, mon Église. Saint Matthieu chapitre 16, verset 18. Mais ici, quelle différence ? Un mot opère une distinction capitale. Marthe le reçut. C'est en quelque sorte son assemblée, sa maison. C'est le lieu où il est reçu avec joie et où il trouve son repos. C'est sa place. Sa place dans un monde qu'il rejette. C'est le lieu où il est enfin reconnu. Avons-nous remarqué que lorsque les assemblées, les églises se répandent sur la face de la terre, à l'origine de chacune se trouve toujours cet événement, des hommes reçoivent la Sainte Parole. Des hommes reçoivent la Sainte Parole. La Pentecôte ne fut pas autre chose grâce à l'Esprit Saint. Nombreux furent ceux qui accueillirent ou reçurent sa parole. À Philippe, une femme nommée Lydie écouta, et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que l'apôtre Paul disait. Quand elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous adresse cette demande. Si vous m'avez jugé fidèle au Seigneur, alors entrez dans ma maison et demeurez-y. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 14 et 15. Voilà donc le commencement d'une assemblée, d'une église, et il en est partout ainsi. À sa source, il y a une compréhension spirituelle de la Sainte Parole reçue dans un cœur qui est grand ouvert. C'est le premier trait qui caractérise l'Église de Jésus-Christ. Il est reçu. Une place lui est donnée, la place d'honneur. C'est très simple, mais c'est beaucoup pour le Seigneur. Et pour nous aussi, c'est beaucoup, car cette expérience va nous conduire très loin et représente plus qu'une courte visite du Seigneur au milieu de nous. Qu'on le reçoive ainsi, cela signifie pour le Seigneur qu'il a trouvé un foyer, une demeure, un lieu à lui, où il a tout ce qui lui est nécessaire pour retrouver tous ses droits universels. Prenons une illustration. Nous nous souvenons de l'histoire tragique qui nous est racontée dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 15. David, rejeté, est obligé de fuir devant son fils Absalom, l'usurpateur. Ce récit pathétique nous montre le roi David chassé de son royaume, abandonnant derrière lui tout ce qui représente ses droits. Quelques hommes dévoués l'accompagnent. Tsadok se trouve aussi avec lui, ainsi que les Lévites qui portent l'arche de l'Alliance de Dieu. Mais David se tourne vers Tsadok et lui dit qu'on ramène l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me fera revenir et revoir l'arche et sa demeure. Versets 24 et 25. Ces paroles signifient « Quand je reviendrai dans la ville, dans ce lieu d'où je suis chassé maintenant, j'y retrouverai ce qui répond aux besoins de mon cœur et on m'accueillera. Je ne reviendrai pas en étranger. Je ne trouverai pas le vide. Je ne reviendrai pas pour ne trouver aucune place. Je ne reviendrai pas sans qu'il y ait un foyer pour m'accueillir. Je reviendrai à quelque chose qui m'aime et qui est un avec moi. Tsadok, toi, je le sais, tu es un avec moi. Oui, dans ton profond attachement, tu voulais partager mon exil. Mais retourne dans la ville, et quand je reviendrai, je retrouverai quelque chose qui est fait pour moi. C'est le principe que nous avons ici. L'Église est pour le Seigneur la demeure qui est sienne, qu'il occupe maintenant par son Esprit Saint. Elle représente pour lui dans le monde qu'il a totalement rejeté, un lieu où il se sait chez lui, un lieu où il pourra revenir. Il a besoin que des hommes, des femmes, des communautés aient pris possession pour lui, qu'ils l'attendent et qui lui sont entièrement consacrés et qui lui fournissent la base nécessaire à la restauration de ses droits universels, comme ce fut le cas pour David. Et c'est pourquoi le Seigneur veut que son Église soit constituée en assemblée locale, établie sur toute la face de la terre. Elles sont les témoignages rendus à ses droits dans un monde où ses droits sont disputés, contestés et même reniés. Par leur présence, elle déclare en substance « Oui, dans ce monde, ce sont les droits du Seigneur qui sont les droits suprêmes, ce ne sont pas ceux de l'usurpateur. » Et elle maintient fermement ce témoignage. Ces versets, si vous voulez, dans cette base qu'il reviendra, il est dit qu'il reviendra, et c'est là qu'il trouvera le moyen, qu'il trouvera l'instrument dont il aura besoin pour recouvrer ses droits, c'est-à-dire les droits qui lui ont été disputés et dont il a été dépouillé. C'est donc si capital de recevoir le Seigneur. Il reviendra chez les siens, parce qu'il est déjà chez lui. Aussi comprenons-nous pourquoi le diable cherche toujours à détruire l'expression locale de l'Église, à anéantir si possible ces petits groupes d'enfants de Dieu qui vivent dans une union et une communion céleste avec Jésus. C'est parce qu'il représente ses droits, les droits du Seigneur, et par leur présence même, ils sont pour l'usurpateur une négation constante de ses droits à lui. L'arche du témoignage est là. Et tant qu'elle est là, ayant partie liée avec le Seigneur, le triomphe de l'usurpateur ne peut être universel. Il sait qu'elle représente la défaite de son royaume. Elle est pour lui une menace constante, si vous voulez, une épine dans son côté. Et c'est pourquoi l'ennemi fera tout pour étouffer, pour briser, pour diviser. Il fera n'importe quoi pour se débarrasser, s'il le peut, de cette expression locale de l'Église qui est conforme à Christ et qui lui a donné une place pour résister et pour résider ou poser un jalon, si vous voulez, de son royaume. Chers amis, c'est ce que devrait être l'Église partout où elle est représentée, ce que devrait être l'Église locale, et c'est ce que devrait être chaque croyant ici-bas, c'est-à-dire une base pour le Seigneur sur cette terre, un témoignage à sa seigneurie et à ses droits souverain. Recevoir le Seigneur, c'est remplir ce rôle pour lui. Nous voyons ainsi que à Béthanie, le tout premier pas effectué est quelque chose de fondamental. Il représente un principe d'une importance extrême. L'Église est constituée pour commencer. Et cela sur le simple principe que Christ a trouvé une place au sein d'un monde qui le rejette, qui est en révolte contre lui. Il a trouvé un lieu où il est chez lui. Gloire soit rendue à son saint nom. Deuxièmement, nous allons avoir la satisfaction de son cœur. Nous continuons maintenant l'étude de notre passage. Marthe le reçut donc dans sa maison. Et elle avait une sœur appelée Marie, qui se tenant assise au pied du Seigneur, qui écoutait sa parole. La forme verbale employée ici dans le texte original exprime une idée de durée et de continuité. On pourrait même traduire littéralement, selon la version allemande, qui se tenant assise au pied du Seigneur et persistait à écouter sa parole. Se tenant assise à ses pieds, elle persistait était à écouter. C'est cela qui irrita Marthe. Elle persistait à écouter. L'observation que Marthe adresse au Seigneur est exprimée au même temps dans l'imparfait actif. Voyons, ne remarques-tu pas que ma sœur persiste à me laisser servir toute seule ? Persiste à me laisser, parce qu'elle persiste à écouter. Quel est ici le sens de ces formes verbales insistantes ? Ce que nous trouvons exprimé dans ces versets, c'est ce que le Seigneur désire par-dessus toute autre chose. Ce qui est ainsi représenté, c'est ce qui satisfait pleinement son cœur. Dans l'attitude de Marie, le Seigneur trouvait ce qui répondait au désir de son cœur. Ainsi s'éclaire toute la signification de l'épisode de Béthanie. Retournons un peu à Matthieu, Saint Matthieu, chapitre 21, versets 18 à 22, où nous est raconté l'épisode du figuier. Nous voyons Jésus qui va et vient entre Jérusalem et Béthanie. Et ce jour-là, il a été à Jérusalem, il a vu ce qui se faisait dans le temple, et son cœur était attristé. Un douloureux désappointement l'étreint. Il a considéré toutes choses, et sans rien dire, il est revenu à Béthanie. Or, le lendemain matin, il se remet en route. Il a évidemment faim et voit un figuier. Il s'en approche dans l'espoir d'y trouver des fruits, mais il n'y en a point. Jésus alors dit ces paroles, « Que jamais plus il ne naisse de toi aucun fruit. » Les disciples s'aperçoivent que l'arbre a séché et qu'il est mort, et ils relèvent le fait. Or, nous le savons, ce figuier est une image de Jérusalem. Il était un symbole du judaïsme tel qu'il était à l'époque de Jésus. Le désappointement qui avait étreint son cœur dans le temple est le même que celui qu'il éprouve en s'approchant pour apaiser sa faim du figuier qui ne porte pas de fruits. Ces deux choses n'en sont au fond qu'une, dans ce sens que ni le judaïsme ni le figuier ne peuvent plus avoir désormais aucun intérêt pour lui. Cet ordre de choses a donc perdu tout droit à l'intérêt du Seigneur, et cela pour toujours. Que jamais plus il ne naisse de toi aucun fruit. Nous parlons du judaïsme. Alors le judaïsme s'éteint et il ne peut satisfaire le Seigneur. Alors il passe. C'est un arbre desséché qui ne peut rien lui donner. Toutefois, bien entendu, Dieu n'a jamais rejeté Israël. Lisez Romains chapitre 11, verset 1. Mais au moment où la déception meurtrit si douloureusement son cœur et s'exprime de manière si tangible, alors le Seigneur est sur le chemin de Béthanie, et Béthanie signifie la maison des figues. Ce n'est pas dans le temple et ce n'est pas à Jérusalem que le Seigneur trouve ce qui peut le satisfaire, mais c'est à Béthanie. Et c'est pourquoi il aime à y retourner. Le système religieux du jour avec ses formes froides et sans vie, ne peut pas satisfaire son cœur. Il a besoin de l'atmosphère vivante et chaude de la maison amie de Béthanie. Il sait bien que si ses paroles sont rejetées à Jérusalem, elles seront acceptées ici et gardées avec soin, et qu'il y aura toujours quelqu'un qui persistera à l'écouter. Je suis frappé de voir dans le chapitre second du livre des Actes que l'un des résultats de la Pentecôte fut que les croyants persévéraient dans la doctrine des apôtres. Et nous voyons l'Église à sa naissance, et c'est son trait caractéristique. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Nous sommes tellement habitués aux paroles de l'Écriture sainte que la véritable valeur des mots en arrive à nous échapper. Voulez-vous me permettre ici un exemple simple et pratique? Nous affirmons certaines vérités. Nous y prêtons tous une certaine attention, puis nous pensons à autre chose. Il se peut que nous nous rappelions notre méditation pendant un certain temps. Peut-être nous souviendrons-nous longtemps de Béthanie. La mention de Béthanie nous rappellera quelque chose et nous remettra en mémoire certaines de nos auditeurs. Nous parlerons peut-être de ce message comme étant plus ou moins bon, plus ou moins intéressant, ou nous formulerons quelques appréciations de ce genre. Mais quelle différence entre cette attitude-là et celle de celui qui, après l'avoir entendu, persévère dans l'enseignement reçu. Il nous faut donc interpréter cette expression nous-mêmes et nous demander sérieusement, maintenant, que signifie pour moi persévérer dans cet enseignement de Béthanie? Le sens réel du mot est ici persister, persévérer, persister. Il persistait dans l'enseignement des apôtres. Il y a donc une grande différence entre persister dans l'enseignement reçu et en terminer l'écoute en disant « Oh oui, c'était un message pas mal du tout ». La persistance représente une application pratique de la vérité reçue. Je répète, la persistance représente une application pratique de la vérité reçue. Et c'est cette mise en application qui caractérise l'Église de Jésus-Christ, qui est le lieu où ce qui vient de lui est reçu, où le cœur se livre tout entier, où tout est vie pour nous. Il y avait donc de la part de Marie cet abandon sans réserve à la parole du Seigneur, et c'était probablement cette attitude radicale qui déplaisait à Marthe. Avide des paroles du Maître, Marie se livrait tout entière à ce qu'elle entendait, et c'est précisément ce que le Seigneur désire. Je me demande quelles seraient les conséquences si nous adoptions cette attitude à l'égard de chaque parcelle de vérité divine que nous saisissons. Quand nous pensons à la somme de vérité que nous avons reçue, nous ne pouvons faire autrement que nous poser cette question: dans quelle mesure toutes ces vérités ont-elles été mises en pratique par chacun de nous? Il ne faut pas chercher ailleurs l'explication de la puissance spirituelle qui caractérisait les premiers croyants, ils prenaient à l'égard de tout ce qu'ils entendaient une attitude pratique et ils persistaient dans l'enseignement qu'ils recevaient. Ils ne s'en allaient pas en disant « Oh, l'apôtre Pierre a prêché un magnifique sermon aujourd'hui. Alléluia !» Non, non, non. Ils persistaient dans l'enseignement des apôtres. Et voilà ce que le Seigneur demande. C'est cela qui satisfait son cœur. Évidemment, vous me direz, c'est plus vite dit que fait. Je suis d'accord, surtout de nos jours, où on n'a plus le temps, où il y a des burn-out à gauche, à droite, dans les hôpitaux, partout, des infirmières même qui se suicident, tellement qu'ils sont surchargés de travail. Donc Marie se tenait assise à ses pieds et persistait à écouter sa parole, et cette attitude remplissait son cœur de joie, alors que tout le reste l'avait attristé et déçu. Ce qui satisfait le cœur du Seigneur, c'est simplement que nous soyons suspendus à sa sainte parole, et que nous l'apprécions à sa juste valeur, et que nous la regardions comme étant l'essentiel. Oui, c'est vrai, l'Assemblée, l'Église doit être, pour le Seigneur, la maison des figues. Troisième moment, nous avons besoin d'un service bien ajusté. Nous passons maintenant à Marthe. Or, Marthe était absorbée par divers soins et elle vient et elle dit, du reste le grec est très fort ici, il signifie que Marthe vient à Jésus et elle l'a mis en cause personnellement. Il sous-entend que à ses yeux, c'était lui, Jésus, qui était responsable de cette situation, et si elle avait exprimé le fond de sa pensée, elle aurait dit, c'est toi qui es responsable. Tu es engagé dans cette affaire, et c'est toi à y mettre de l'ordre. Tel est donc le sens qui transparaît dans le texte original. Marthe le considère comme étant le responsable qui pourrait, s'il le voulait, et même qui devrait mettre cette situation en ordre. Au fond, Marthe a perdu patience. Elle avait longtemps refoulé son mécontentement, mais à la fin, elle ne peut plus le retenir. Elle vient donc à Jésus et éclate sa rancœur. Seigneur, voyons, ne considères-tu pas que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc de m'aider. J'aimerais que nous puissions saisir l'acuité de la situation. Cela nous aiderait à mieux comprendre Marthe. Il faut chercher à nous mettre à la place de Marthe pour saisir la cause de sa mauvaise humeur. L'expression absorbée par divers soins est à peine suffisante pour exprimer la réalité de la situation. Cette traduction, à mon avis, nous donne une idée tout à fait imparfaite de ce qui se passait. Le mot grec employé ici et traduit par absorbée signifie proprement elle était tirée de tous les côtés. Elle nous permet de nous représenter les traits de son visage, contractés par l'anxiété. N'avons-nous jamais vu un visage contracté par l'anxiété? C'était le cas, en effet, de Marthe. l'anxiété tirait ses traits. Et quelle était la cause de cette anxiété? La confection de beaucoup de plats. Ce que le Seigneur dit à Marthe, c'était en réalité ceci. Marthe, voyons Marthe, tu te mets à peine en peine, tu te mets en peine et tu t'agites pour beaucoup de plats. Mais un seul plat sera nécessaire. Oui, un seul plat est nécessaire. Et tu es absorbé jusqu'à l'anxiété par tes nombreux plats. Tu te donnes beaucoup plus de travail que tu ne peux en faire. Tu commences à t'en rendre compte maintenant, n'est-ce pas? Telle était en quelque sorte la situation. La démarche nécessaire de la part de Marthe, c'était un ajustement de son attitude à l'égard des choses pratiques, afin que ce qui était le plus important puisse avoir toute sa place. Ce n'est pas que le Seigneur ait été opposé à ce que Marthe leur prépare un repas. Non, non, non. Mais il voyait que cette affaire de repas devenait pour Marthe tellement compliquée et disproportionnée que les choses les plus importantes se trouvaient reléguées à l'arrière-plan. Donc, les préoccupations secondaires prenaient pour Marthe toute la place et absorbaient tout son temps. Oui, un repas est une bonne chose, mais prenons garde à conserver en tous les domaines de justes proportions. Donc veillons à ce que les choses temporelles, je dis bien temporelles, ne submergent pas notre vie spirituelle. Oui, ne permettons pas aux choses qui passent de nous inquiéter, de nous absorber, de nous accaparer à tel point que les réalités spirituelles en soient éclipsées. Elles sont toutes bonnes pourvu qu'elles soient à leur place. Mais la seule réalité qui ait la priorité absolue, c'est la Sainte Parole qui nous vient des lèvres du Seigneur. Nous le voyons, c'est une question de proportion. C'est la question de savoir à quoi nous donnons le plus de valeur, sur quoi nous mettons l'accent, de savoir si nous permettons aux choses de cette vie de nous absorber, de nous préoccuper, de contracter nos visages par l'anxiété au point de n'avoir plus ni place ni temps pour les choses essentielles. Nous sommes certainement tous d'accord et nous ne discutons plus l'attitude du maître de Jésus à l'égard de Marthe. Maintenant que nous comprenons la situation à cette lumière-là, ce qui était nécessaire, c'était un ajustement de toutes choses, afin ce qui n'est que temporel et terrestre et ce secondaire au fond, tout en ayant sa place, la place qui lui est propre, et il soit bien maintenu et dans la juste proportion évidemment, et que les choses suprêmes puissent prédominer et ne soient pas submergées par celles qui, après tout, ne sont que pour un temps. Telle était donc la situation à Béthanie. Or, dans la maison de Dieu, mes bien-aimés, ce qui importe beaucoup plus que tout notre travail, que toutes les activités fiévreuses dans lesquelles nous sommes engagés pour faire face aux mille et un devoirs de notre service chrétien, la seule chose qui importe, chers amis, c'est d'apprendre à connaître le Seigneur et de lui donner l'occasion, je dis bien, de donner l'occasion au Seigneur de se faire connaître. Et trop souvent, dans ce qu'on appelle l'Église, les activités fiévreuses couvrent la loi du Seigneur et excluent totalement sa personne. Nous ne pensons plus qu'à ce que nous faisons et nous sommes si peu attentifs à lui, au Seigneur, de lui donner le temps de nous parler. Ce qui peut le satisfaire, c'est de nous voir à cette place et dans cette attitude qui relève un ajustement de toute notre vie aux réalités suprêmes. C'est ça la leçon que nous donne Marthe. Quatrièmement, nous avons le parfum répandu. Nous prenons maintenant pour notre quatrième thème de réflexion Saint Matthieu chapitre 26, verset 6 jusqu'au verset 13. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, portant un vase d'albâtre plein d'un parfum de très grand prix, et elle le lui répandit sur la tête pendant qu'il était à table. Les disciples, voyant cela, furent indignés et ils dirent, « Mais à quoi bon cette perte ? On pouvait vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Mais Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi ? Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Si elle a répandu ce parfum sur mon corps, elle l'a fait en vue de ma sépulture. En vérité, je vous le dis, partout où cet évangile sera prêché, dans le monde entier, ce que cette femme a fait sera aussi raconté en mémoire d'elle. J'ai tiré cela de la version allemande, mais c'est pareil chez vous. Nous sommes donc à nouveau au village de Béthanie. Il y a là une femme portant un vase d'albâtre rempli d'un parfum excessivement précieux et qu'elle répand sur la tête de Jésus. Cette scène fait ressortir en tout premier lieu le fait que dans l'ordre des valeurs, le Seigneur Jésus occupe la première place. Et c'est trop peu que de dire la première place. Il est au-dessus de tout et en dehors de tout comparaison. Or, quelqu'un à Béthanie a reconnu la valeur du Seigneur Jésus dans l'esprit que nous venons de définir. La remarque faite par tous ceux qui ont vu la femme honorer ainsi le Seigneur revient à dire ceci, « Mais il n'en est pas digne. » C'est au fond ce qu'ils veulent faire entendre. Ils ne le méritaient pas, Jésus, bien que naturellement, ils n'osent pas exprimer leurs pensées de cette manière. Mais elle a reconnu la valeur du Seigneur. Elle sait qu'il mérite ce qu'elle a d'infiniment précieux. C'est la valeur infiniment précieuse de Christ qui a été discernée ici et qui est reconnue. C'est là, je pense, le trait caractéristique de cet événement. Et c'est un trait de Béthanie, c'est un trait de la chambre haute, c'est un trait de mon Église. C'est un trait distinctif du rassemblement de ceux qui sont au Seigneur. c'est un trait de ce peuple qui est selon son cœur. Reconnaître combien sa personne est infiniment précieuse, reconnaître sa valeur sans prix, reconnaître que rien ne sera jamais trop précieux pour être déposé à ses pieds. Pour vous qui croyez, il a du prix, car il est précieux. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 7. Cet épisode est très simple, et cependant ce geste a mérité de se voir profondément apprécié par le Seigneur Jésus. Il reste un trait distinctif de ce village tant aimé. En d'autres termes, c'est ce qui fait du rassemblement des siens quelque chose de grande valeur pour lui. C'est la place où il est reconnu dans tout ce qu'il est, où il est apprécié, où il est honoré dans toute sa valeur et dans toute sa dignité. C'est ce qui doit marquer la maison du Seigneur, et c'est une caractéristique qui doit se développer de plus en plus et à laquelle nous devons veiller, reconnaître de façon spontanée et toujours grandissante la valeur précieuse et la dignité infinie du Seigneur Jésus. Quelle différence il y a entre cette atmosphère de Béthanie et les formes souvent si froides des systèmes ecclésiastiques. Peut-on vraiment dire que le culte que rendent aujourd'hui les membres de l'Église soit caractérisé par une appréciation réelle dans leur cœur de la dignité et de la valeur infinie du Seigneur Jésus? Là où se trouve une telle appréciation, vous avez une assemblée, une église telle que Dieu la conçoit. Là où elle n'est pas, malgré tous les ornements et toutes les apparences extérieures, toutes les icônes et j'en passe, vous n'avez pas l'église selon la pensée de Dieu, celle en laquelle son cœur prend plaisir. Mais un autre enseignement nous est encore donné ici, me semble-t-il. Il a fallu que le vase fût brisé pour que la valeur précieuse du parfum se répandît. De même, il faut que le vase de terre fragile que nous sommes, que je suis, et dans lequel nous portons ce trésor, soit brisé pour que soit manifestée et exprimée la gloire de Christ. Tant que le vase est entier, tant que l'argile qui le constitue est intacte et solide, tant qu'il attire les regards sur lui-même et fait dire à l'entourage « Oh, quel beau vase, quel magnifique spécimen d'albâtre !» Eh bien, le secret nous échappe. Nous pouvons faire l'éloge de certains hommes, de leur intelligence supérieure, de leur prédication éloquente, forte et éblouissante, de toute leur personnalité importante, tandis que tout ce qui est à l'intérieur reste caché et scellé. Mais si le vase est brisé, s'il est mis en miettes, alors nous découvrons le sanctuaire, le lieu secret d'où rayonne la gloire du Christ. L'apôtre Paul illustre cette vérité. En effet, nous pouvons supposer que Saul de Tarse a été tant au point de vue intellectuel qu'au point de vue moral et religieux un vase d'albâtre de choix. Il nous dit lui-même qu'il l'était. Il nous dit tout ce qu'il était, tout ce dont il tirait gloire, tout ce qui forçait au fond l'attention et sans aucun doute tout ce qui soulevait l'admiration. Mais ce vase fut un jour brisé, et dès lors ce n'est plus Saul, et ce n'est plus même l'apôtre Paul, mais c'est la beauté et la gloire de Christ qui attirait l'attention par lui. La bonne odeur de Christ, le parfum de Christ, se répandent lorsque le vase est brisé. Et mes bien-aimés, il en est exactement de même dans notre expérience. Dieu a permis que l'Église, la vraie Église, soit écrasée, mise en miettes de siècle en siècle, et il permet souvent que ses membres soient individuellement brisés et encore brisés. Mais l'histoire ne prouve-t-elle pas, pour l'Église comme pour l'individu, que ses corps, ses brisements, ses épreuves ont eu pour effet une expression merveilleuse de la gloire de Jésus-Christ. Il en est exactement ainsi. Nous traversons une nouvelle épreuve qui nous brise plus profondément. Nous exprimons parfois notre expérience en d'autres termes, en disant que nous entrons plus profondément dans la mort de Christ, ou que nous faisons une nouvelle expérience de la croix. De quelque manière que nous l'exprimions, cela signifie qu'un brisement a lieu, c'est le vase qui se brise. Mais croyez-moi, mes bien-aimés, cela signifie aussi une expression plus pleine et une connaissance plus complète de la gloire de Christ qui nous amèneront à une appréciation absolument nouvelle de comprendre qui est vraiment notre Seigneur. Et c'est à l'heure du brisement que nous le découvrons dans tout ce qui il est, et cette révélation se fait toujours plus profond. L'Église passe donc par le chemin de la croix, et c'est par le brisement et par le chemin de l'humiliation qu'elle arrive à connaître et apprécier la valeur infinie du Seigneur Jésus. Cinquièmement, nous avons la puissance de sa résurrection. Nous passons maintenant à l'évangile de Saint Jean et au récit bien connu du chapitre 11. Béthanie, de nouveau, est le cadre des événements et nous sommes cette fois en présence de la résurrection de Lazare. Nous ne nous arrêterons pas à tous les détails de cette histoire, mais nous irons rapidement à son dénouement et à sa conclusion. Béthanie, dans ce cas particulier, devient la scène, devient le théâtre de la manifestation de la puissance de résurrection, de la vie de résurrection. Beaucoup d'autres enseignements peuvent être relevés ici. Une expression merveilleuse de l'amour et une expression merveilleuse de communion fraternelle prend place dans ce chapitre. Encore bien loin de Béthanie, le Seigneur dit à ses disciples, « Lazare, notre ami, s'est endormi. » Notre ami, non pas simplement mon ami, mais notre ami. Nous le voyons, c'est la communion fraternelle qui s'exprime ici. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quel amour il y a dans ces simples paroles. Tous ces traits sont des caractéristiques de Béthanie, mais le trait transcendant ici, c'est la manifestation de sa résurrection, la puissance de sa résurrection, la vie de résurrection. Ici encore, Béthanie est une illustration de l'Église du Christ qu'il bâtit lui-même. nous le savons par l'épître aux Éphésiens, l'épître de l'Église, comme nous l'appelons. Nous n'avons pas besoin d'aller très loin dans la lecture de cette lettre pour y trouver cette assurance que Dieu nous a vivifiés avec lui. L'Église, et c'est le vase dans lequel se manifeste la puissance de sa résurrection, et nous devons non seulement faire de cette affirmation un article de foi et un objet d'enseignement, mais il nous faut mettre cette vérité à l'épreuve. Il faut que l'Assemblée, que l'Église, telle que le Seigneur la conçoit, soit bien le lieu où se manifeste sa puissance et sa vie de résurrection. De telles affirmations nous laissent très souvent, je le sais, nous laissent une impression de vide. Oui, il devrait en être ainsi, disons-nous en nous-mêmes. Tout comme nous savons que nous devrions être crucifiés, je devrais être crucifié avec Christ. Nous savons aussi que nous devrions être ressuscités avec Christ. Et il est bien vrai que nous devrions connaître la puissance de sa résurrection et sa vie de résurrection. Nous le disons et nous le répétons, et cependant dans les choses, il me semble que les choses en restent tout simplement là. Comment tout cela se fera-t-il? Eh bien, nous avons quelque chose à faire. Mes bien-aimés, nous avons quelque chose à faire. Il nous faut reconnaître premièrement que si le Seigneur a amené à l'existence son Église, c'est justement pour manifester par elle la puissance de sa résurrection. Et ensuite, nous devrons nous consacrer au Seigneur pour que ce but précis soit atteint. C'est là le chemin. Nous reconnaissons le but, l'objet même pour lequel nous faisons partie de cette Église, de ce corps. C'est pour qu'il puisse déployer en nous et par nous sa puissance et sa vie de résurrection. Alors, reconnaissons bien que c'est là le but et le seul but. Nous scellons un accord définitif avec le Seigneur par lequel nous nous consacrons à lui. C'est donc là que finit notre responsabilité. C'est de tout notre cœur que nous avons pris cette décision. Le Seigneur commencera, lui, son œuvre. Nous ne pouvons pas plus nous ressusciter nous-mêmes que nous crucifier nous-mêmes, mais nous devrons comprendre que les voies du Seigneur à notre égard n'ont d'autre but que de manifester la puissance de sa résurrection. À cet effet, il devra souvent nous conduire par des chemins obscurs, mystérieux et parfois inexplicables. Nous nous trouverons parfois dans une situation si extraordinaire que nos vrais intérêts nous paraîtront comme irrémédiablement compromis et les circonstances de notre vie seront de telle nature qu'aucune ressource humaine ne pourra y remédier. Les choses iront si loin qu'il ne se trouvera aucune puissance dans le monde tout entier pour sauver la situation. Le Seigneur permettra aux forces de mort et de désagrégation d'agir en nous, de telle sorte que rien dans tout l'univers ne puisse nous sauver, excepté la puissance de sa résurrection. Nous arrivons ainsi à cette place où est arrivé Abraham, lui qui est devenu le grand héros de la foi, lui qui persévéra et entra dans l'expérience de la résurrection. Il a vu, sans faiblir dans sa foi, que son corps était usé, Romains 4, verset 19. C'est l'expression qu'emploie l'apôtre en parlant d'Abraham, expression qui signifie que son corps était comme mort. Et l'apôtre Paul, connaît plus tard cette même expérience et il dira « Nous avions prononcé en nous-mêmes notre arrêt de mort, ne voulant pas mettre notre confiance en nous, mais en Dieu qui est ressuscité et qui a ressuscité les morts. » 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 9. Quelles que soient donc les merveilles que puissent faire les hommes dans le domaine de la création, ils sont arrêtés impuissants dès que la mort les a frappés et ils ne peuvent plus rien. La résurrection est l'acte de Dieu et de Dieu seul. Les hommes peuvent faire beaucoup de choses tant qu'ils ont la vie, mais quand elle leur est enlevée, il n'y a que Dieu qui puisse agir. Et Dieu permettra souvent que son Église et ses membres connaissent des situations telles qu'ils ne restent au point de vue humain aucun espoir de secours ou de délivrance afin de manifester sa puissance dans laquelle un homme ne trouve aucune place pour sa propre gloire. Le Seigneur Jésus dit donc que cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Saint Jean, chapitre 11, verset 4. Glorifié, oui, c'est à cet ordre de choses que nous sommes consacrés. En d'autres termes, par notre consécration, nous avons accepté de suivre une voie qui, au point de vue humain, est sans espoir, la mort à nous-mêmes. Mais combien nous sommes lents à l'accepter dans ses conséquences et dans sa réalité agissante. Quand les circonstances prennent une tournure désespérée, nous nous régimbons si facilement en pensant que tout va mal. Il se peut, au contraire, que tout aille bien aux yeux du Seigneur. Oui, la situation peut sembler désespérée, et le fait que Dieu l'a permise n'enlève rien à l'acuité de notre détresse, ni à son horreur. Mais si elle est pour le Seigneur une occasion suprême d'établir son témoignage, de manifester ce qui lui tient le plus à cœur, alors tout n'est-il pas bien? Oui, l'issue, elle nous prouvera que tout est bien. Et lorsque dans l'éternité, nous reverrons toute l'histoire de l'Église qui est son corps et que nous nous rendons compte de toutes les épreuves qu'elle a eues à traverser, nous serons obligés de confesser qu'aucune institution humaine, aucune organisation terrestre aurait été capable de supporter ce que les saints ont vraiment enduré. Voyez-vous, lorsque nous comprendrons tout cela à la lumière de l'éternité, et que nous l'apprécierons selon des mesures vraiment spirituelles, eh bien nous reconnaîtrons que rien ni personne ne pouvait l'accomplir et le faire triompher que Dieu lui-même. Et là, nous réaliserons que l'Église est devenue, sans aucun doute, le véhicule, l'instrument, le moyen d'expression de l'infinie grandeur de sa puissance. Et ce n'est pas peu dire. S'il faut l'infinie grandeur de sa puissance pour atteindre ce résultat-là, cela nous montre de quel abîme nous avons été retirés. Si la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes, que doit représenter l'infinie grandeur de sa puissance? Oui, c'est cela, la résurrection. C'est à la résurrection, nous le savons, que se rattache ce passage. Chers amis, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qu'il a déployée en Christ en le ressuscitant des morts? Éphésiens chapitre 1, versets 19 et 20. Or, cette puissance s'exerce envers nous qui croyons. Maintenant, l'Église, le témoignage de Béthanie, doit être le témoignage rendu à la puissance de sa résurrection. Et si la manière dont le Seigneur agit à notre égard rend nécessaire l'exercice d'une telle puissance, c'est donc que nous sommes une vraie expression de ce qu'il désire pour son Église. Que cette pensée puisse nous réconforter et nous encourager. Sixièmement, nous avons la célébration de sa victoire. Lisons maintenant le chapitre 12 de l'évangile de Saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus est venu à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. On lui a préparé un souper et Marthe servait. Maintenant, tout trouve sa juste place. Lazare était l'un de ceux qui étaient à table avec lui. Alors Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, qui était de très grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Ça donc, c'est une fête qui se déroule ici, et cette fête comporte plusieurs éléments. Marthe et son geste qui parle d'adoration. De nouveau, c'est l'appréciation de la véritable valeur et de la véritable dignité de Christ qui s'offre à nos yeux. Or, l'adoration n'est pas autre chose, car dans la pensée de Dieu, c'est toujours et simplement apprécier toute la valeur du Seigneur Jésus. C'est de faire monter devant Dieu, comme un parfum délicat, l'expression de tout ce que est son Fils pour notre cœur. C'est cela l'adoration. Cette idée peut paraître très simple. L'adoration dans son essence, la plus pure, consiste donc à dire au Père ce que nous pensons du Seigneur Jésus. C'est la raison d'être du rassemblement des enfants de Dieu. Tel est donc le message de Béthanie. Marthe s'emploie à servir, mais maintenant, c'est d'un service bien ajusté. Elle sert encore, mais tout est dans l'ordre. Elle ne s'attire plus aucun reproche. Son visage n'est plus tendu par l'anxiété. Elle sert dans une maison et dans une atmosphère de résurrection. Son service s'est donc ajusté. Dans la maison du Seigneur, le service est tout à fait conforme à sa pensée. Lorsque il est associé à l'adoration dans une juste proportion, on sent donc maintenant qu'un travail d'adaptation s'est opéré entre les deux sœurs. Auparavant, elles étaient chacune de son côté, faute d'ordre et d'équilibre dans leurs devoirs respectifs. Or maintenant, l'harmonie s'est établie et elles s'entendent tout simplement en toutes choses. C'est un service ajusté, accompli dans une base totalement nouvelle. Lazare est à table, et il représente naturellement le principe de la vie de résurrection. Voici encore une marque distinctive de la maison du Seigneur. Adoration, service ajusté et vie de résurrection. Malheureusement, toujours, une ombre sinistre est là, tout près. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Quand l'assemblée est en accord avec la pensée du Seigneur, nous découvrirons toujours que le diable est là, tout près, aux aguets. Cette consolation peut, du reste, être à l'éloge de l'assemblée, car le diable ne portera certainement jamais un regard jaloux sur une chose qui ne satisfait pas le cœur du Seigneur. Mais il en est toujours ainsi. Dès que nous commençons à avoir une chose qui sera une satisfaction pour le cœur du Seigneur, eh bien nous apercevrons qu'un élément perturbateur la guette et cherche à détruire cet élan d'adoration et à arrêter cette appréciation du Seigneur. Et cela devient une caractéristique de l'assemblée elle-même. Jaloux de ce que le Seigneur peut obtenir, le diable ne la quitte pas des yeux et s'efforce de la détourner à son profit. C'est très simple. L'Église est le rassemblement de ceux qui apportent au Seigneur Jésus ce qui lui revient. Or, de toute éternité, le diable a concentré tous ses efforts pour dérober au Seigneur Jésus ce qui lui revient. Il le fera dans l'Église s'il le peut, car l'assemblée est le moyen par lequel le Seigneur obtient ce qui est par-dessus tout précieux à son cœur. Et septièmement, nous terminerons cette étude. Nous devons sortir pour monter. On trouvera une dernière mention de Béthanie dans Saint-Luc chapitre 24, versets 50 à 52. Il les amena ensuite jusqu'aux environs de Béthanie, et levant les yeux, les mains surtout, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut élevé au ciel. Eux, l'ayant adoré, s'en retournèrent à Jérusalem pleins d'une très grande joie. Soulignons trois points, s'il vous plaît. Il, Jésus, les amena, il les bénit et il fut enlevé. Il les amena, c'est sortir avec le Seigneur, c'est être à l'écart avec lui, sous sa bénédiction, et c'est être uni à lui dans le ciel. Pour employer l'expression de l'apôtre Paul, il nous a fait asseoir ensemble, vous et moi, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Voilà donc Béthanie. Oui, voilà l'Église. Voilà ce que le Seigneur désire aujourd'hui dans la vie de son peuple. Retournons encore une fois à Béthanie pour terminer, afin que tout ce que nous y avons trouvé pénètre notre cœur pour que le Seigneur trouve en nous ses traits qui répondent à sa pensée et réjouissent son cœur. Et ce que nous cherchons à faire dans notre vie, faisons-le aussi pour la vie spirituelle de nos communautés, dans ces églises, dans ces assemblées, ces églises locales dont nous faisons partie, afin qu'elles puissent devenir, elles aussi, de véritables Béthanie, ces villages qui sont des expressions de la grande cité de Dieu, oui, de la Jérusalem céleste. Amen. Et chers amis, nous pouvons peut-être encore terminer par la prière. Prions. Dieu de bonté, ouvre mes oreilles de telle sorte que je perçoive ta parole, que j'entende celle-ci avec mon cœur et que je m'en laisse transformer. Rends-moi sensible aux plus légères modulations de ta voix. Ouvre ma bouche afin que je puisse te louer et dire tout ce que tu as fait. Par ton Esprit Saint, rends-moi capable de redresser et d'encourager par mes propos les gens que je rencontre. Que mes paroles soient des paroles d'amour, créatrices de relations, des paroles de guérison et de consolation, de libération et de réconciliation, des paroles capables de révéler des horizons neufs, de faire s'entrouvrir le ciel et de faire saisir à tous combien leur vie est précieuse et unique. Amen. Et chers amis, cette prière est pour vous qui venez d'écouter cette étude. Et je voudrais simplement vous dire que nous avons un Dieu et nous avons un Seigneur Jésus qui pas seulement nous sauve, mais qui peut aussi nous guérir. Croyez-moi, on peut dire maintenant 89 ans, c'est tout de même un grand âge, et c'est un miracle. Vous qui venez de m'entendre, vous savez très bien que c'est pas évident d'avoir fait ce que je viens de faire, mais ce n'est pas moi qui l'a fait. Non, non, non. Je dois vous dire la vérité. Je n'aurais pas pu le faire. C'est le Saint-Esprit qui a pris ma bouche, incroyable mais vrai, et qui a permis que je puisse parler cette étude jusqu'à la fin. C'est donc un miracle. Et ce miracle, il peut le faire pour vous qui venez d'écouter. Il peut vous toucher là où est votre problème. Croyez-moi, c'est vrai. Si vous pouvez, essayez d'écouter sur 3xW, donc www.bibleexplique.ch, et là, il y a plus de 150 CD uniquement sur le thème de la guérison. Sans compter qu'il y a beaucoup d'autres thèmes, évidemment, puisqu'il y en a plus de 3000. Donc, chers amis, que le Seigneur vous bénisse et à demain matin, Dieu voulant, pour une nouvelle série. Au revoir, mes très chers amis. Amen.